إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc on continue dans le cours numéro 20 dans l'explication du livre Fadl al-Islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications du Cheikh Saleh al-Fawzan, et on continue donc la suite de l'explication du hadith de Hudhayfa lorsqu'il a parlé de la division qui va se produire, du mal qui va se produire vers la fin des temps. Et à la suite, le Cheikh il dit: وزاد أبو داود قلت ثم ماذا قال يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا قال ثم هي قيام الساعة. Il dit donc que l'imam Abu Daoud a rajouté à la suite du hadith de Hudhayfa qu'on a lu au dernier cours qu'il a dit, puis Hudhayfa a dit, et puis qu'est-ce qu'il y aura après? Et il a dit, il y aura la sortie du Dajjal. Le Dajjal va sortir, et avec lui il y a une rivière et un feu. Alors celui qui tombe dans son feu, il aura sa récompense. Il aura la récompense d'Allah et on lui enlèvera de ses péchés. Et celui qui tombe dans sa rivière, c'est-à-dire dans la rivière du Dajjal, il aura son péché et on lui enlèvera sa récompense. Il n'aura pas de récompense. Donc, on voit que c'est ça la fitna du Dajjal. Hein? Le Cheikh va l'expliquer après. Et il dit ensuite, puis Hudhayfa a dit, puis ensuite qu'est-ce qu'il va y avoir? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, puis ensuite il y a la venue de l'heure du jugement dernier. Donc ça c'est la suite rapportée par l'imam Abu Daoud et l'imam Ahmad. Là, le Cheikh Al-Fawzan il explique cette partie-là. Il dit, وَمِنَ الْفِتَنِ الشَّدِيدَةِ ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان وخروجه من علامات الساعة الكبرى سمي بالدجال من الدجل وهو الكذب لكثرة كذبه ولهذا وهذا الرجل يظهر في اليهود وهو المهدي الذي ينتظره اليهود يخرج فيهم ومعه فتنة عظيمة معه صورة جنة وصورة نار فالنار التي معه هي الجنة والجنة التي معه هي النار هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه أن لا يغتر بالزخرف فهذا الدجال يصور أن ما معه جنة وهو في الحقيقة نار ويصور ما معه بأنه نار وهو جنة هذا فيه التحذير من السحرة والمشعوذين الذين يسمون أو الذين يسمون سحرهم السيرك أو الفن وهو السحر التخييلي المسمى بالقمرة وفيه التحذير من الدعايات المضللة وأن لا يزهد الإنسان بالحق ولو أن الحق لبس عليه ووصف بالتأخر والرجعية والجمود وكذا وكذا. الحق هو الحق. Donc, le Cheikh explique, il dit que parmi les dures épreuves qui vont arriver vers la fin des temps, il y a la venue du Messie Dajjal, l'Antéchrist, celui qu'on appelle l'Antéchrist. Et il l'appelle, beaucoup de chrétiens l'appellent même Antéchrist. Pourquoi? Parce que ils disent que le Christ, c'est Isa alayhi salam, il croit qu'il va revenir, et nous aussi on croit qu'il va venir à la fin des temps, il va revenir. Et il y a Al-Masih Dajjal qui est son contraire, son opposé. Al-Masih Isa qui amène le bien, et Al-Masih Dajjal qui amène le mal avec lui. Hein? Donc c'est son contraire. C'est pour ça qu'il l'appelle l'Antéchrist. Et donc, Dajjal, c'est un des grands signes parmi les signes de l'heure du jugement dernier. Il va venir vers la fin des temps. Et on l'appelle Dajjal parce que ça vient du mot en arabe qu'on dit Dajjal. Dajjal, ça veut dire Al-Kazib, c'est-à-dire le mensonge. Et Dajjal, c'est la forme, la forme du mot qui amplifie sa signification. Quand tu dis c'est l'ouazn en arabe qu'on appelle, la forme fa'al. Et quand on dit quelque chose dans cette forme, ça amplifie la signification de ce mot. Donc, al-kazib, la forme, si on le met sous la forme fa'al, c'est kazab. C'est-à-dire quelqu'un qui ment tout le temps. Al-kazib, c'est le mensonge. Al-kazib, c'est le menteur. Al-kazab, c'est celui qui ment tout le temps. Donc, Ad-Dajjal, c'est le mensonge, et Ad-Dajjal, c'est celui qui ment tout le temps, hein, qui fait beaucoup de mensonges. Et donc, il vient parmi les Juifs. Donc, c'est un être humain, c'est un homme. Et il va venir parmi les Juifs. Et c'est le Messie qu'eux attendent, parce qu'eux, ils ne croient pas en Isa, alayhi salam. Ils ne croyaient pas que Isa, c'était leur Messie. Alors, ils attendent toujours, jusqu'à aujourd'hui, qu'un Messie vienne pour les sauver. Et c'est en réalité le Dajjal qui sera leur Messie. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, ce Messie Dajjal, les Juifs l'attendent, et c'est lui qui sera leur Messie. Il va venir et il a une grande épreuve avec lui, une grande tentation avec lui. Et son épreuve, c'est quoi? C'est que il trompe les gens par beaucoup de choses. Et il a avec lui. Il a avec lui un paradis et un enfer. Partout où il va, il a une apparence de paradis, une apparence d'enfer. Sauf que c'est le contraire de la réalité qu'il montre. Son paradis, si tu rentres dedans, tu vas voir que c'est en réalité un enfer. Et son enfer, en réalité, si tu rentres dedans, c'est un paradis. Donc ceux qui vont choisir son paradis vont tomber dans l'enfer. Et ceux qui vont choisir son enfer vont aller au paradis en réalité. C'est-à-dire que tous ceux qui sont d'accord avec lui et qui le suivent, il va leur montrer qu'en réalité, il les amène vers le bien, vers la richesse, vers la prospérité dans la dunya, alors qu'il les amène vers l'enfer. Et tous ceux qui, par exemple, refusent de le suivre, il va les amener vers la misère et les difficultés dans cette vie. Ils vont plus avoir rien. Donc pour eux, c'est comme s'ils sont dans l'enfer, alors qu'en réalité, c'est eux qui vont au paradis. Hein? Donc, il a un feu avec lui et il a un paradis avec lui. Et c'est le contraire de la réalité qu'il montre. Son feu, c'est un paradis, et son paradis, c'est un feu. Et donc, ça, c'est la preuve que les hommes ne doivent pas se laisser tromper par les belles apparences des choses. Donc, ce Dajjal, ils leur font paraître le paradis comme si c'était un enfer. Et il leur fait paraître l'enfer comme si c'était un paradis. D'accord? Donc, il y a dans ça un avertissement, une mise en garde contre les sorciers et contre les charlatans et contre les gens qui font de la magie, de la sorcellerie et des choses de ce genre, parmi les marabouts et parmi les sorciers, parmi les magiciens et tous les autres, qui font des choses qui sont pas ordinaires, hein, des choses extraordinaires des fois. Et le cheikh il dit, comme qu'est-ce qu'on appelle par exemple ceux qui appellent leur magie de le cirque, ou bien les l'art, ou bien des illusionnistes, ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des fausses propagandes, des fausses slogans, des fausses publicités que ces gens-là font pour éloigner les gens de la vérité. Hein? Donc, les illusionnistes et les magiciens qui font des trucs illusoires pour distraire les gens, ils leur font des trucs de magie. Et il y en a des gens qui disent « Ah, mais il n'y a rien de mal, ils font juste faire des jeux comme ça avec les gens. » Et les conséquences de ça, en réalité, sont très dangereuses, comme le cheikh il le mentionne, parce que lorsque le Dajjal va venir, il va faire des tours lui aussi, il va faire des trucs de magie. Personne ne pourra comprendre comment il fait. Et même, il y a un hadith qui mentionne qu'il va couper un homme en deux, et puis il va le recoller, et puis la personne va être vivante. Il y a des magiciens maintenant, ils font ça, des choses comme ça. Ils mettent quelqu'un dans une boîte, il prend une scie, il coupe la boîte en deux, il la sépare, alors tu vois ses pieds qui sortent de l'autre côté, sa tête qui sort de l'autre côté, toi tu penses que il l'a réellement coupé en deux. Puis après, il remet la boîte ensemble, hein, et puis il l'ouvre, et la personne sort de la boîte, elle est en un seul morceau. Donc les gens, ils voient ça, après, ils pensent que c'est quelque chose de magie, de truc de magie. Hein? Ils sont éblouis par ça. Quand le Dajjal va venir, il va le faire pour de vrai, les gens vont dire, ah mais ça c'est des vrais maintenant, c'est pas les trucs de magie comme les autres. Et là, ils vont penser qu'il a un pouvoir réel, ils vont peut-être commencer même à croire que c'est Dieu. Parce que c'est lui, il va dire ça aux gens. Il va dire aux gens qu'il est Dieu. Et il y a des gens qui vont le suivre. Et la majorité des hommes sur la terre vont le suivre. Et il va égarer avec lui beaucoup de gens. C'est pour ça que les gens aujourd'hui qui font de la magie et de la sorcellerie, hein, ils vont, ceux qui sont trompés par ceux d'aujourd'hui, c'est certain qu'ils vont être trompés par le Dajjal. Parce que la magie de ceux-là aujourd'hui, c'est rien à côté de qu'est-ce que le Dajjal va faire. C'est pire encore. Et il y en a qui vont le suivre, puisqu'il y en a qui sont aujourd'hui trompés par ceux-là aujourd'hui. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, il ne faut pas se laisser tromper, donc, par ces genres de sorciers, de marabouts, des gens qui font de la magie ou des choses comme ça. Hein? Et peu importe, qu'est-ce que les gens peuvent donner comme surnom ou mauvais nom ou sobriquet ou se moquer de la vérité, essayer de qualifier la vérité par toutes sortes de termes qui vont faire croire aux gens que c'est quelque chose qui est dénigré, qui est pas bon, alors que c'est la vérité. Comme par exemple les gens aujourd'hui, quand on leur parle de l'islam, ou quand on leur dit, on parle de l'islam à la télévision, ou dans les médias, dans les journaux, ils disent par exemple que c'est quelque chose qui est rétrograde, hein, que c'est quelque chose de retardé, que c'est quelque chose qui est obscur, ou que c'est de l'extrémisme ou du fondamentalisme ou des choses comme ça. Ils utilisent toutes sortes de termes comme ça pour essayer de faire éloigner les gens, faire fuir les gens de la vérité. Et puis, le cheikh, il dit, peu importe les noms que ces gens-là vont donner à la vérité, pour faire fuir les gens, c'est pas grave. La vérité, c'est la vérité. Et le faux, c'est le faux. Le cheikh, il dit, وَالْبَاطِلْ هُوَ الْبَاطِلْ وَلَوْ وُصِفَ بِالتَّقَدُّمِ وَالْحَضَارَةِ وَالرُّقِي هُوَ بَاطِلْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْخَدِعُونَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْفِتَنِ ولا يسلم من شره إلا القليل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم يحذرون من المسيح الدجال وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقرب زمان خروجه ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع في كل صلاة في التشهد الأخير بأن نقول أعوذ بالله أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. الشيخ يزي la vérité c'est la vérité et le faux c'est le faux, même si par exemple le faux on lui donne des noms comme par exemple des beaux noms comme le modernisme, l'évolution, la civilisation, hein, et d'autres mots comme ça, ça reste quand même faux. Si c'est le faux, c'est faux, même si on change son nom, hein. Et donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se laissent tromper, et quand le Dajjal va venir à la fin des temps, il va ramener toutes sortes d'épreuves et de tests et de tentations pour les gens. Les gens vont être tentés et beaucoup de gens vont se laisser tromper et vont se laisser jouer justement par ces ruses-là et par ces épreuves. Et peu de gens vont être capables de s'en échapper. Peu de gens vont être capables de s'en échapper. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que tous les autres prophètes avant lui, il mettait toujours en garde contre Al-Dajjal, Al-Masih Al-Dajjal. Et celui qui a mis en garde le plus contre lui, c'était notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est plus proche de sa venue. C'était le dernier des prophètes, donc c'est lui qui est le plus près de la venue du Dajjal. Et à cause de ça, il nous a ordonné de chercher le refuge en Allah contre quatre choses. À la fin de chaque prière, dans le dernier tashahhud, on dit « Je cherche refuge en Allah contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, contre l'épreuve de la vie et de la mort, et contre l'épreuve du Messie Dajjal. » Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, Muslim selon Abi Huraira. Il dit ensuite, le Cheikh, il mentionne ensuite les paroles d'un des imams parmi les tabi'in, Abu al-Aliya. قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تتحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. Donc Abu al-Aliya, un des imams parmi les salaf, parmi les tabi'in, il disait: apprenez l'islam et lorsque vous l'avez appris, ne cherchez pas autre chose, ne l'abandonnez pas. Et accrochez-vous au droit chemin, car c'est l'islam. Et ne déviez pas du droit chemin, ni à gauche, ni à droite. Et accrochez-vous à la sunna de votre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et prenez garde à ces différentes passions. Et à ces différentes passions, c'est-à-dire aux innovations que les gens inventent dans la religion. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant les paroles de cet imam parmi les imams des tabi'in, les élèves des sahaba. Il s'appelle Abu al-Aliya. Il dit Abu al-Aliya al-Riyahi. Son nom c'est Rafi' ibn Mihran al-Riyahi. Il fait partie des imams des tabi'in, min a'immat al-tabi'in. Yusi bi wasaya 'azima. Il donne de grands conseils. Awwaluha, premier, ta'allamu l'islam. Apprenez l'islam. Ay i'rafu l'islam ma huwa. C'est-à-dire, apprenez ce que c'est l'islam. Wala yakfi an taqul ana muslim wa anta la ta'rif l'islam. Il dit, c'est pas suffisant de dire je suis musulman alors que tu ne connais pas réellement qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam. La budda an ta'rif ma huwa l'islam wa ma hiya arkanuhu wa ma hiya nawaqid l'islam hatta takuna ala basira. وتعرف معناه وتعرفه وتعرفه وتعرف معناه وتعرفه وتعرفه وتعرف أركانه وتعرف مكملاته ومناقضاته ومنقصاته حتى تكون على بصيرة. وهذا فيه الحث على تعلم العلم النافع لأنه هو الحياة وهو النجاة بإذن الله. فهذه واحدة. Donc, il dit le cheikh que tu dois connaître l'islam. Qu'est-ce que c'est l'islam? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont dit on est musulman, on croit en l'islam. Mais si tu demandes à un musulman qu'est-ce que c'est l'islam? Qu'est-ce que c'est les piliers de l'islam? Qu'est-ce que c'est les choses qui annulent l'islam de quelqu'un? Quelles sont les annulations de l'islam? les gens ne vont pas savoir la réponse. Donc, c'est important de connaître ces choses-là pour dire, oui, je connais l'islam et la réalité de l'islam. Hein? C'est pas juste de dire, je suis musulman, puis tu ignores qu'est-ce que ça signifie. Et si on te demandait d'expliquer à un non-musulman qu'est-ce que c'est l'islam pour le convaincre de la réalité de l'islam et pour lui faire comprendre le problème qu'il a dans sa religion, tu ne serais pas capable de le faire parce que tu n'as pas appris ta religion correctement. Donc le cheikh il dit, il faut que tu connaisses les piliers de l'islam, les choses qui annulent l'islam, c'est-à-dire les choses qui font que les actions, les paroles et les croyances, que si tu les fais, ton islam sera annulé. Tu dois connaître ces choses-là. Il y a des paroles, si tu les dis, tu vas annuler ton islam. Il y a des actions, si tu les fais, tu vas annuler ton islam. Il y a des croyances, si tu les as dans ton cœur, elles vont annuler ton islam. Il faut que tu les connaisses. Parce que si tu ne les connais pas, tu ne peux pas connaître la différence entre l'islam et le kufr, entre l'islam et le shirk, entre qu'est-ce qui oppose l'islam et qu'est-ce qui n'oppose pas l'islam. Tu dois connaître ça. Si tu veux avoir une bonne connaissance de l'islam. Et le cheikh il dit ensuite, tout ça tu dois le connaître pour que ta religion soit basée sur une connaissance et sur une compréhension. Tu connais sa signification, tu connais sa définition, tu connais ses piliers, tu connais ce qui vient compléter ton islam, tu connais ce qui vient annuler ton islam, tu connais ce qui va, diminuer ton islam, tout ça tu le connais. Donc tu pratiques ton islam avec une compréhension, avec une connaissance, et il y a dans ça également une incitation à étudier la science qui est bénéfique, c'est-à-dire la science de l'islam, et également il y a dans ça une vie et un salut par la permission d'Allah pour les croyants. Ça c'est le premier point. Le deuxième point dans le conseil que nous donne l'imam Abu al-Aliya, il dit الثانيه اذا تعلمتموه وعرفتموه عليكم بالتمسك به ولا يكفي ان يكون الانسان عالما بل يجب عليه ان يعمل بعلمه والا فالكثير من العلماء اهل ضلال اي ضلوا وهم عندهم علم فاليهود عندهم علم وقد ضلوا وكفروا فلا يكفي مجرد العلم ولا بد من التمسك بالحق والثبات والصبر عليه مع العلم فهو علم وعمل أوصي أولا بالعلم ثم أوصي بالعمل والثبات عليه. Donc deuxièmement, le cheikh il dit, lorsque vous l'avez appris et que vous l'avez connu, alors vous avez appris votre islam, vous avez connu votre islam, maintenant vous devez vous accrocher à cet islam. Et ce n'est pas suffisant de uniquement le connaître, il est obligatoire également d'agir selon la connaissance qu'on a appris. Parce que sinon, beaucoup de savants, beaucoup de personnes qui ont de la science font partie des gens de l'égarement. C'est-à-dire qu'ils se sont égarés alors qu'ils avaient de la science. Comme les juifs qui ont de la science mais qui se sont égarés et qui ont mécru. Donc c'est pas suffisant de seulement avoir de la connaissance, il faut également s'accrocher à la vérité et rester ferme et être endurant sur la vérité. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il faut être endurant et patient avec la science. Donc c'est une connaissance et une application. Et yani aussi اولا بالعلم ثم اوصي بالعمل والثبات عليه. Donc اوصى نعم اوصى اولا بالعلم ثم اوصى بالعمل والثبات عليه. Donc il a donné le conseil d'apprendre et ensuite il a donné le conseil d'appliquer et d'être ferme sur la connaissance qu'on a eue. الثالثه أن تلزم الصراط المستقيم قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم فالصراط هو الطريق المستقيم هو المعتدل الذي ليس فيه ميلان وانحراف هذا هو الصراط المستقيم أمرنا الله بأن نتبعه وأمرنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط وأن يعرفنا به وأن يعرفنا به وأن يثبتنا عليه. Donc le cheikh il dit ensuite que dans le conseil de l'imam Abu al-Aliya, il y a ensuite le conseil de s'accrocher, de rester sur le droit chemin. Et il mentionne le verset 153 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Et il dit dans Sourate Al-Fatiha: guide-nous sur le droit chemin. Donc le chemin, c'est la voie. Et quand on dit qu'il est mustaqim, ça veut dire qu'il est équilibré, qu'il est modéré, qu'il est équilibré et modéré, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans les extrêmes. Il n'exagère pas et il ne fait pas preuve de laxisme en enlevant des choses. Donc, il est dans l'équilibre et dans la modération. Ensuite, il n'y a pas, ça signifie, quand on dit également qu'il est mustaqim, ça signifie aussi qu'il est mu'tadil, c'est-à-dire dans le sens qu'il n'y a pas de déviation dans ce chemin-là. Il n'y a pas de courbe ou de déviation ou des tournants. Elle est droite, cette voie. C'est un chemin droit. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le suivre et nous a ordonné de demander, de lui demander qu'il nous guide sur ce chemin, sur cette voie. Et il nous a appris, il nous a demandé de lui demander de nous montrer cette voie-là, de nous la faire connaître et de nous garder fermement accrochés sur cette voie-là pour pas se dévier, pour pas se détourner. Le cheikh il dit ensuite: وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ الرَّابِعَةُ فهي أنك إذا وفقت أو وفقك الله لمعرفة الصراط المستقيم وسرت عليه فلا تنسى دعاة الضلال الذين يريدون أن يحرفوك عن الصراط المستقيم. ولهذا قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا. Donc le cheikh explique, il dit que dans le quatrième point, dans le conseil de l'imam Abu al-Aliya, il dit que lorsque Allah t'a donné le succès de connaître le droit chemin, il faut maintenant, lorsque tu as marché dessus, il t'a donné le succès de le connaître et de le suivre, ce droit chemin, maintenant n'oublie pas qu'il y aura des gens qui appellent à l'égarement et qui veulent te faire dévier de son droit chemin. Et c'est pour ça qu'il dit dans le verset 153 à la suite du verset qu'on a lu tout à l'heure, il dit: et ne suis pas les petits sentiers qui vont te faire dévier de son droit chemin. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple de ça, et on va le lire, cet exemple de ça, dans les hadiths qu'il va mentionner plus loin. On connaît tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite sur le sol, puis à gauche de ce chemin il a tracé des petites lignes, et à droite de ce chemin il a tracé des petites lignes, et il a dit, en traçant le trait droit, il a dit: voilà le chemin d'Allah. Puis quand il a fait les petits sentiers à gauche et à droite, il a dit: voilà les petits sentiers. Et à la tête de chacun d'entre eux, il y a un diable qui invite les gens à le suivre. Alors c'est pour expliquer aux gens que le chemin d'Allah, il est droit et qu'il est unique. Et tandis que les chemins d'égarement sont nombreux. Et ce sont des chemins qui te font dévier du droit chemin. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit: تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد راغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. ويتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقوله: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأشباه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصول التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. Donc le cheikh explique, il dit, lorsque tu vas réfléchir sur les paroles de l'imam Abu al-Aliya qu'on a lu tout à l'heure, comme elles sont de belles grandes paroles, des paroles avec de grandes significations, et sache ou bien reconnais l'époque à laquelle il a averti contre les passions. Hein? يعني الشيخ الزي وعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام. Il dit, regarde à quelle époque il mettait en garde contre les passions, que celui qui les suit, ses passions, il a quitté ou abandonné l'islam. Et regarde également la façon dont il interprète ou comment il interprète l'islam par le terme sunna ou par la sunna. Il explique l'islam en disant que c'est la sunna. Et regarde la peur qu'il avait pour les grands parmi les tabi'in et les ulama de son époque de les voir sortir de la sunna et du livre. Et donc, lorsque tu as médité là-dessus, tu vas comprendre la signification des versets qu'il a mentionnés, c'est-à-dire le verset 131 dans Surat Al-Baqara, et lorsque إذ قال له ربه أسلم. Lorsqu'il dit, lorsque son Seigneur lui dit, soumets-toi, et il dit, je me suis soumis, ou je me suis soumis au Seigneur des mondes. Et le verset 132 dans Surat Al-Baqarah, à la suite, et il a enjoint à cette parole, ou à cette religion, à l'islam, au tawhid, il a enjoint ses fils. Et Yaqub également a enjoint ses fils à s'accrocher à l'islam et à rester dans l'islam et à s'accrocher au tawhid, à l'unicité d'Allah, et n'adorer que Allah et à rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hein? Et ils ont dit à leurs fils, Ibrahim a dit à ses fils et Yaqub a dit à ses fils, ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, il a choisi pour vous le tawhid, l'unicité d'Allah, l'adoration du Dieu unique, et de l'adorer lui seul, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Alors ne mourrez que en étant musulmans. Ne mourrez que en étant des musulmans qui se soumettent à Allah et qui adorent que lui, et qui n'adorent rien d'autre en dehors de lui. Et il mentionne l'autre verset qui vient à la suite, dans Surat Al-Baqarah, verset 130, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque abandonne la religion d'Abraham, excepté celui qui est faible d'esprit, hein, ainsi que d'autres parmi les fondements, les grands fondements qui sont le fond qui montre, hein, que ça c'est le fondement de tous les fondements, c'est-à-dire le tawhid et l'unicité d'Allah et la religion de l'islam. Et malgré ça, les gens sont indifférents et insouciants de tout ça. Donc il y a dans ces paroles-là de grandes leçons pour nous. Donc, en premier, le cheikh il nous fait comprendre qu'il faut prendre en considération l'époque à laquelle l'imam Abu al-Aliya est en train de donner ce conseil. Il n'est pas en train de donner ce conseil-là à n'importe qui, il est en train de donner ce conseil-là à des imams, à des savants parmi les élèves des sahaba. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'adresse à des gens qui sont très très proches de la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et malgré ça, il craint pour eux la fitna, il craint pour eux l'égarement, il craint pour eux les innovations, il craint pour eux de s'éloigner de la sunna, donc des choses comme ça. La même chose que Ibrahim alayhi salam, il a dit à ses fils de s'accrocher au tawhid et de ne pas se tourner vers autre chose que la religion d'Allah, alors que ce sont des prophètes et des fils de prophètes. Hein? Donc si c'est le cas pour eux, et si c'est le cas pour les tabi'in, et si c'est le cas pour les fils des prophètes, et si c'est le cas pour les prophètes, alors qu'est-ce qu'on peut dire de nous? Aujourd'hui, on vit en 1430 et quelques années. Donc aujourd'hui, dans le calendrier Hijri, dans le calendrier islamique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de nous aujourd'hui par rapport à ceux-là qui nous ont précédés? C'est encore plus important pour nous aujourd'hui de faire attention et de, d'être sur nos gardes. Le livre s'enfuit, yani. Allah Moustahan. طيب لو الشيخ يسكيلزي يقول الشيخ رحمه الله تأمل كلام أبي العالية أو تأمل كلام أبي العالية هذا وما فيه من الفوائد العظيمة وزمان أبي العالية متى إنه زمان التابعين فكيف بزماننا هذا أبو العالية خاف على التابعين فكيف بزماننا هذا أنه أشد خطرا وتفسير الإسلام بالسنة أي السنة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب إذا كان قد خاف على أعلام التابعين فكيف بنا نحن الخوف علينا أشد. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que exactement ce que je vous disais tout à l'heure, le cheikh Abu Alia, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, méditez, observez sur les paroles de l'imam Abu al-Aliya. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez les grands bienfaits qu'il y a dans cette parole. C'était quand l'époque de Abu al-Aliya? L'époque de Abu al-Aliya, c'est l'époque des tabi'in. Donc, si c'est le cas, si l'imam Abu al-Aliya dit ça à l'époque des tabi'in, qu'est-ce qu'on peut dire de nous aujourd'hui? Abu al-Aliya a eu peur pour les tabi'in. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour nous à notre époque aujourd'hui? Le danger est plus grand. Hein? Et donc, ça, des fois, il faut réfléchir à ça. Dans le sens que, à l'époque des tabi'in, c'est-à-dire les gens qui ont étudié avec les Sahaba. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Les Sahaba sont restés. Ils ont continué le message de l'islam, à propager le message de l'islam. Et à répandre l'islam dans le monde. Maintenant, lorsque les gens veulent connaître l'islam, ils vont aller vers qui? C'est qui les plus savants après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est les sahaba. Et après, maintenant, les gens qui apprennent avec les sahaba, ce sont eux les tabi'in. C'est l'autre génération. Maintenant, les tabi'in, quand ils sont là, ils veulent apprendre avec les sahaba, ils vont chercher. Où sont les sahaba? Comment on peut étudier avec eux? Où est-ce qu'ils sont? Dans quelle ville? Dans quel pays on va aller étudier avec eux? Ils s'en vont étudier avec eux. Maintenant, après les tabi'in, il y a les tabi'in. Et les tabi'in, c'est les élèves de ceux qui ont étudié avec les sahaba. La même chose pour eux. Ils disent, où sont ces gens-là, les tabi'in? Ce sont eux les plus savants, parce qu'ils ont étudié avec les sahaba, avec les élèves des sahaba. Donc on veut les retrouver, on veut savoir qui ils sont. Et la science, elle s'est héritée de génération en génération par les savants qui ont étudié les uns des autres depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et donc, encore aujourd'hui, si on veut retrouver cette science, il faut retourner aux savants qui ont hérité cette science. Hein, et du Coran et de la Sunna et de la compréhension des premières générations de l'islam. Donc le cheikh il dit, et l'imam Abu al-Ali il explique que l'islam c'est la Sunna. Il interprète ou il définit l'islam par la Sunna. Et la Sunna c'est quoi? C'est ce que suivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a peur pour les grands imams parmi les tabi'in et les ulama et les savants de son époque, il a peur pour eux qu'ils sortent de la sunna et du livre. Donc s'il avait peur pour eux, alors que ce sont les grands savants parmi les tabi'in, alors que pouvons-nous dire de nous aujourd'hui? La peur, elle est encore plus grande. Et donc le cheikh il dit, « يَتَبَيَّنُ لَكَ مَعْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ تَعَالَى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين استجاب لأمر الله عز وجل وأسلم نيته وقصده وعلمه لله عز وجل، هذا هو الإسلام، الإخلاص لله عز وجل والانقياد لله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول في الثلاثة الأصول، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Donc le cheikh explique, il dit et il cite les paroles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab encore une fois, qui mentionne les versets dans le Coran. Et lorsque Abraham, Allah lui dit soumets-toi, aslim, entre dans l'islam, et Ibrahim répond je me suis soumis, je suis entré dans l'islam, je me suis soumis au Seigneur des mondes, dans le verset 131 dans surat al-Baqarah. Puis il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit ensuite, et qui cherche autre que la religion d'Abraham, excepté celui qui est faible d'esprit, et nous l'avons choisi dans cette dunya, et dans l'au-delà il sera du nombre des pieux. Lorsque son Seigneur lui dit soumets-toi, entre dans l'islam, il dit je me soumets au Seigneur des mondes. Donc il a répondu à l'ordre d'Allah, il a soumis son intention et son but, son objectif et son action à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a soumis tout son être à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'islam, c'est d'être sincère et d'avoir une intention et des actions qui sont purement pour Allah et uniquement pour Allah, et de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses commandements et dans ses ordres. Et ça c'est la définition. C'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité la parole de l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. Il définit l'islam en disant que l'islam c'est de se soumettre à Allah par le tawhid et d'obéir à ses ordres, et de soumettre notre corps à ses ordres par l'obéissance à Allah, et également de se désavouer du shirk et des gens qui pratiquent le shirk, de se désavouer du shirk et de ceux qui le pratiquent. Il dit wa qawluhu ta'ala wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. وهذه وصية إبراهيم عليه السلام ووصية يعقوب عليه السلام، كل منهما وصى ذريته بالتمسك بالإسلام، وأنتم من ذرية إبراهيم عليه السلام، فالوصية شاملة لكم ولمن يأتي بعدكم إلى أن تقوم الساعة. ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها يعقوب بني إسرائيل الذين هم اليهود، فالله وصى بها العرب والعجم، ووصاهم جميعا على لسان إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة عليهما السلام، أن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم هذه نعمة عظيمة، بينما أكثر البشر على الضلال، وأنتم أنعم الله عليكم بهذا الدين العظيم وبعث عليكم هذا الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، ودينكم أفضل الأديان، هذه نعمة عظيمة، اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه هي المهمة. معناه أن تثبت على هذا الدين حتى يأتيك الموت، فإذا جاءك الموت وأنت على هذا الدين فأنت من السعداء، أما إن جاءك الموت فأنت منحرف، وأنت منحرف عن هذا الدين فأنت من الأشقياء، فالعبرة بالخاتمة التي تموت عليها، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أثبتوا، وهذا فيه الحث على الثبات على الدين حتى يأتيك الموت وأنت عليه لا تتركه أبدا. الشيخ explique ici que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a donné le conseil à Ibrahim et à Yaqub de dire en fait à leurs enfants cette parole de tawhid de l'islam. Et il dit que Abraham et Jacob ont enjoint à leurs fils et à leurs enfants, et ils ont dit à leurs enfants tous les deux que Allah a choisi pour vous la religion et ne mourrez donc pas qu'en étant musulman. Il dit que ça c'est un conseil de la part d'Ibrahim a.s. et de la part de Ya'qub a.s. à leurs enfants. Tous les deux, ils ont donné ce conseil-là avant de mourir à leurs enfants de s'accrocher à l'islam. Il dit, donc, vous êtes les fils d'Abraham. Hein? Vous êtes les fils d'Abraham. Donc, c'est un conseil qu'il donne avant la mort pour vous, qui est un conseil complet pour tous ceux qui viennent après vous jusqu'à la venue du jugement dernier et de l'heure du jugement. Il a donné également le conseil, Yaqub a donné le conseil également aux fils d'Israël, c'est-à-dire aux Juifs, ce sont ses fils, les 12 tribus d'Israël sont les descendants des 12 fils de Jacob. Hein, Yaqub, il leur donne le conseil de s'accrocher à l'islam, de rester sur le tawhid, de ne pas dévier. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce conseil-là aux Arabes, et il a donné ce conseil-là aux non-Arabes. Il leur a donné à tous le conseil par la langue de Ibrahim et de Ya'qub alayhi salam. Ibrahim, c'est le père de Isaac et de Ismaïl. Ishaq et Ismaïl. Ismaïl, il est le descendant de ou l'ancêtre de du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ishaq, c'est le père de Ya'qub. Et Ya'qub est le père de Bani Israël. D'accord? Ya'qub est le père des fils d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Israël. Hein? Et donc, il donne le conseil pour les Arabes et pour les non-Arabes. Parce qu'Ibrahim, hein, c'est de lui qui est venue la descendance par la suite des Arabes et les non-Arabes comme les Hébreux et les autres, les fils d'Israël. Wa ala lisan Ibrahim wa Ya'qub alayhim as-salam an Allah astafa lakum ad-din. Allah a choisi pour vous la religion, ça c'est une grande ni'ma, alors que le reste de l'humanité sont dans l'égarement. Vous, Allah vous a donné cette grâce, il vous a donné cette grande religion. Et il a fait venir parmi vous le messager, le noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des messagers, avec la meilleure des religions. Et ça, c'est la plus grande des grâces. Allah a choisi pour vous cette religion, alors ne mourrez qu'en étant musulman. Et c'est ça l'important. Ça veut dire que tu dois mourir en état d'islam, tu dois mourir alors que tu t'accroches à cette religion-là. C'est pas juste de dire je suis musulman, tu vis toute ta vie sur l'islam, puis tu meurs dans l'égarement. Tu dois rester ferme jusqu'à ta mort. Et celui qui, lorsque la mort lui vient, il est sur cette religion-là, alors il sera parmi les gens heureux. Et si la mort te vient alors que tu es dévié de cette religion, alors tu seras du nombre des malheureux. Donc, qu'est-ce qui compte, c'est quoi? C'est comment tu as terminé ta vie jusqu'à ta mort. Comment tu restes jusqu'à ta mort? Et donc, c'est pour ça qu'il dit, ne mourrez qu'en étant musulman, c'est-à-dire rester ferme. Et il y a dans ça une incitation à rester ferme sur la religion jusqu'à ce que nous vienne la mort. Hein? Donc, une fois que tu es sur cette religion, ne l'abandonne jamais. Une fois que tu es converti dans cette religion, ne l'abandonne jamais. Une fois que tu es devenu pratiquant de cette religion, par exemple, tu pratiquais pas, là tu as commencé à pratiquer cette religion, alors ne l'abandonne jamais. Wa qawluhu ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa man yarghabu an yani yarghabu istifham inkari ay لا يرغب أحد يعني لا يترك أحد ملة إبراهيم إن كان يريد النجاة لنفسه فلا يترك ملة إبراهيم التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من سفه نفسه. أي سفه معناه خفة العقل وضياعه. فمن ترك ملة إبراهيم فقد خسر نفسه وأهلكها. وأعز شيء عند الإنسان نفسه، فإذا خسر نفسه خسر أعز شيء عنده. قل إن الخاسرين الذين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فكيف يخسر الإنسان نفسه إذا ترك ملة إبراهيم خسر نفسه؟ الشيخ يكسلك الزيدان que ne quittez pas la religion d'Abraham. Il dit que personne ne quitte la religion d'Abraham excepté celui qui a fait preuve de faiblesse d'esprit. Ça c'est dans le verset 130 dans Sourate Al-Baqarah. Et quand il dit وَمَنْ يَرْغَبُ, c'est une question, mais en même temps c'est un blâme, c'est une question pour blâmer la personne qui le fait. C'est une phrase qui a un sens comme de réprimande, mais qui est sous forme interrogative. Ok, il dit, la signification c'est personne ne doit quitter cette religion excepté celui qui fait preuve d'une faiblesse d'esprit. Donc il dit, c'est-à-dire personne ne doit quitter la religion d'Abraham s'il veut le salut pour lui-même. Donc celui qui abandonne la religion d'Abraham avec laquelle est venu notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne la quitte excepté celui qui fait preuve de cette faiblesse d'esprit. Safiha nafsa. As-safa, ça veut dire en arabe khiffatul aqli wa daya'uhu. Khiffatul aqli, ça veut dire ta raison, elle est faible, elle est faible, trop faible, et en même temps, tu l'as perdu, ta raison. Donc c'est ça l'exemple. Excepté celui qui a perdu sa raison, excepté celui qui a fait preuve de faiblesse d'esprit, faiblesse de raison. Donc quiconque a abandonné la religion d'Abraham, le tawhid, alors il a perdu sa personne et il s'est perdu. Il a perdu sa personne et il l'a fait périr son âme. Il a fait périr son âme. Et ça c'est la chose la plus chère que quelqu'un peut posséder. La chose la plus chère que tu possèdes, c'est ton âme. Et si tu la perds, tu as perdu la chose la plus chère. Et il mentionne le verset 15 dans Surat Az-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, les perdants sont ceux qui ont perdu leur âme, ainsi que leur famille, qui sont perdus eux-mêmes, ainsi que leur famille au jour de la résurrection. Comment quelqu'un peut se perdre lui-même, ou perdre son âme? Comment? C'est lorsqu'il abandonne la religion d'Abraham. Il a perdu son âme, il s'est perdu lui-même. وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. أشباه هذه النصوص، هذه الآثار التي فيها هذه الوصايا العظيمة، وأكثر الناس في غفلة عنها، لا يقرؤونها ولا يتعلمونها، وإذا تعلموها فقليل من الناس يعمل بها، وإذا عملوا بها فقليل يثبت عليها، فالأمر يحتاج إلى استعانة بالله عز وجل وإلى اهتمام، ولا يثق الإنسان بنفسه ويأمن من الفتن، بل يخاف من الفتن ويتجنبها، ولا يكون إما مع الناس بل يكون مع الحق دائما أبدا، فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق، فإن وافقه فالحمد لله، وإن خالفه فإنه يتركه. Le cheikh il dit, donc qu'est-ce qui ressemble, et ça c'est ces versets qu'on a mentionnés, il dit, ils ressemblent donc à ces fondements, ces grands fondements qui sont le fondement de tous les fondements, mais que malheureusement les gens ne leur ont pas donné d'importance, ou ils ont été insouciants vis-à-vis de ce fondement-là. C'est-à-dire que les textes qu'on a mentionnés dans le Coran, dans la Sunna, et ces paroles qu'on a citées de la part des salaf, on voit que dans lesquels il y a des grands conseils pour nous, on voit qu'il y a une grande ressemblance entre les deux. Et la plupart des gens en sont insouciants. Ils ne les lisent pas, ils ne les apprennent pas. Et lorsqu'ils les ont appris, très peu de gens les appliquent. Et lorsqu'ils les appliquent, très peu de gens sont restés fermes dessus. Donc, la question nécessite qu'on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et demande qu'on les prenne avec une importance, et quelqu'un ne doit pas se sentir en confiance avec lui-même au point où il pense qu'il est sauvé et en sécurité de l'épreuve et de la tentation. Non, au contraire, il faut craindre pour soi-même les épreuves et la tentation et s'en écarter. Et il ne faut pas être innocent et naïf avec les gens. Au contraire, il faut rester tout le temps avec la vérité. Et lorsque quelque chose se présente et quelque chose t'est présenté ou te vient, tu dois le mettre en présence ou tu dois le comparer avec la vérité pour voir est-ce que c'est correct ou non. Si c'est en accord avec la vérité, alhamdoulillah. Et si c'est en contradiction avec la vérité, alors dans ce cas, tu l'abandonnes, tu le rejettes. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Ziwa, بمعرفته تبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأن الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبادوا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Donc le cheikh explique ici, il dit, donc en ayant connu ces différents ahadith avec leur signification, en ayant connu ces textes, et maintenant on a clarifié leur signification dans ce chapitre et dans les chapitres qui sont semblables, on voit que quelqu'un ne doit pas les lire ou lire des textes semblables et être en sécurité et se penser en sécurité avec lui-même de dire que ce qui est arrivé à ces peuples-là, c'est arrivé à eux, mais moi, ça ne va pas m'arriver. C'est des gens qui étaient là dans le passé, eux, ils sont finis maintenant. Et il mentionne le verset 99 dans Sourate Al-A'raf. Est-ce qu'ils se sont sentis en sécurité de la ruse d'Allah? Et personne n'est en sécurité contre le complot d'Allah, excepté les peuples perdants ou qui ont perdu. C'est-à-dire que, comme on disait, il ne faut pas se sentir que ces versets-là ne s'adressent pas à nous. Il y en a des fois parmi nous, des fois on a l'impression que on n'est pas concerné par ces versets. D'ailleurs, ça c'était des versets pour les gens qui sont venus avant nous, c'est des histoires des anciens. Maintenant, ils sont morts, nous. Maintenant, c'est fini. Ça ne s'applique pas à nous. Le cheikh dit non. Qu'est-ce qui est arrivé à eux, il peut arriver à toi aujourd'hui. Le cheikh, il dit, est-ce qu'on s'est senti en sécurité du complot ou de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et il mentionne, le cheikh Al-Fawzan, il explique ça maintenant. Il dit, « الذي يقرأ هذه النصوص وأمثالها ويتفقه بها ويعمل بها يكون على طريق النجاة طريق السلامة أما الذي لا يلتفت إليها أو يقرأها ولكن لا يتأملها ولا يتفقه فيها أو يأمن على نفسه من الفتن والانحراف فهذا حري أن يكون من الهالكين لأنه لم يأخذ بأسباب النجاة وعلى الإنسان أن لا يغتر بنفسه ولا بعلمه ولا يغتر بدينه لأن الإنسان بشر وهو عرضة للفتن والإنسان ضعيف ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Donc le cheikh explique, il dit, lorsqu'on lit ces textes, celui qui lit ces textes dans le Coran et dans la Sunna et des exemples des paroles des salaf, et qu'il apprend des textes semblables et qu'il essaie de les comprendre comme il faut et de les appliquer, alors dans ce cas-là, il est sur la voie du salut. Il va être sauvé. Il est sur la voie de la sécurité. Mais celui qui se détourne de ces textes, ou bien qui les lit mais ils ne réfléchissent pas sur leur signification et ils n'essaient pas de les comprendre correctement. Ou bien, ils les lisent, ils les comprennent, mais ils n'essaient pas de les appliquer sur lui-même. Il pense qu'il est en sécurité des tentations et de la déviation. Il dit, ah, moi, je ne vais jamais me dévier. C'est garanti que je suis sauvé, que je suis sur le droit chemin et que je vais mourir sur le droit chemin et que je vais toujours être bien guidé. Il dit, celui-là, c'est celui-là en premier qui risque d'être parmi les perdants, parmi ceux qui vont périr. Parce qu'il n'a pas pris les causes nécessaires pour être sauvé. Il s'est pensé en sécurité et il s'est arrêté là-dessus. Il n'a pas pris les causes nécessaires pour se sauver. Donc, il dit que chacun d'entre nous, on ne doit pas être trompé par nous-mêmes, ou par notre science, ou par notre connaissance, ou par notre religion, de dire « moi je suis savant, moi j'ai de la connaissance, ou moi je suis une personne pieuse, je fais mes prières, je ne vais pas m'égarer ». Non, il ne faut pas se penser en sécurité comme ça. Il dit « parce qu'on est des êtres humains ». Et on peut tous être éprouvés et tomber dans les tentations. Et l'être humain, il est faible. Et donc, c'est pour ça que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et par l'imam Ahmad, selon Anas ibn Malik, il répétait constamment le dua. « Oh, toi qui fais tourner les cœurs, garde mon cœur ferme sur ta religion. Oh, toi qui changes les cœurs, qui fais tourner les cœurs, garde mon cœur fermement accroché à ta religion. » Donc ça, c'est le cas pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est le cas pour chacun d'entre nous également. Wa qala Allah ta'ala wa rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa la yadhakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ar-rasikhuna fil ilm يخافون في الزيغ يخافون من الزيغ لذلك يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فالإنسان يكون على خوف فإذا خاف فإنه يبحث عن النجاة أما إذا أمن فإنه يقع في الهلاك وهو لا يدري. قال تعالى أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالله جل وعلا يمكر بأهل الشر بمعنى أنه يستدرجهم عقوبة لهم، فمكره جل وعلا بحق، وهو إيصال العقوبة إلى من يستحقها بطريق خفي لا يتنبه له أو لا يتنبه له، وهو من الله محمود لأنه جزاء وعدل لا يمكر بأحد إلا وهو يستحق، ولا يمكر بالصالحين، إنما يمكر بأهل الشر، ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والجزاء من جنس العمل. Donc le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui sont fermement ancrés dans la science disent, ceux qui sont fermement enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur, et seuls ceux qui sont doués d'intelligence se souviennent. Puis ensuite, dans le verset 8, dans Surat Al-Imran, à la suite de ce verset, il dit, ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donc ceux qui sont fermement enracinés dans la science, ils ont peur de la déviation. Et c'est pour cette raison-là qu'ils demandent à Allah et qu'ils disent, ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Donc l'homme doit toujours avoir peur et être dans la crainte de dévier. Et il doit toujours craindre, alors ça l'amène à chercher le salut et à être dans le salut. Amma idha amina, donc, mais s'il se sent en sécurité et il pense qu'il est sauvé, alors là, c'est là qu'il tombe dans la perdition alors qu'il ne alors qu'il ne le sait même pas. Tout le monde doit dire ce dua. Tout le monde doit dire ce dua. Mais celui qui fait des péchés, il doit dire ce dua et il doit avoir encore plus peur que celui qui fait moins de péchés. Parce que celui qui fait plus de péchés, il risque plus facilement de se dévier du droit chemin que celui qui fait moins de péchés. Donc si celui qui fait plus de péchés, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit dire ce dua et en plus, il doit se repentir, demander pardon de ses péchés. D'accord? Donc il dit, le cheikh il dit, il mentionne le verset 99 dans surat al-A'raf dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawm al-khasirun. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc il dit lorsque donc est-ce qu'il il dit quoi, il dit est-ce qu'ils se sont sentis en sécurité contre le complot d'Allah? Il dit nul n'est en sécurité contre le complot d'Allah excepté les peuples perdants. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des complots contre les gens qui font le mal. Allah subhanahu wa ta'ala fait des complots contre les gens qui font le mal. C'est-à-dire que il les prend au petit à petit et il les élève vers l'égarement. Et il les punit petit à petit sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc, ça c'est la ruse d'Allah. Il les punit petit à petit sans que les gens s'en aperçoivent. Il fait tomber sur eux son châtiment. Et ça c'est une punition pour eux. C'est une punition pour eux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, son complot et sa ruse contre les gens qui font le mal, il est en vérité, il est juste, il est fait avec droit. Il fait tomber la punition sur celui qui la mérite d'une manière subtile que personne ne peut remarquer. Les gens ne vont pas s'en apercevoir que Allah est en train de les punir. Et de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose qui est louable parce que c'est une justice. C'est une rétribution juste de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces gens-là. Puisqu'ils font le mal, Allah subhanahu wa ta'ala les punit par le mal d'une manière juste, qu'ils ne s'en aperçoivent même pas parce que c'est pour les punir pour le mal qu'ils font et les ruses qu'ils font. Ils se sentent en sécurité contre les ruses d'Allah, donc Allah subhanahu wa ta'ala les punit de cette manière. Ça peut être des musulmans, ça peut être des koufars, ça peut être autre, parce que c'est des gens qui font du mal. C'est des gens qui font du mal. Donc quelqu'un peut être musulman et Allah le punit pour des péchés qu'il fait. C'est pas juste pour les koufars qui sont punis. Quelqu'un peut être musulman, Allah les punit. C'est pour ça que le cheikh il est en train d'expliquer ça. Depuis tout à l'heure, il dit il faut pas se sentir en sécurité parce que tu dis moi je suis musulman, moi je fais la prière, moi je fais le bien, ça y est, je suis sauvé. Tu sais pas, juste le fait de te sentir en sécurité comme ça, déjà peut-être que c'est le début de ton égarement. Ok? Parce que tu peux pas savoir, même si tu es aujourd'hui sur la vérité, sur le droit chemin, tu peux pas savoir comment tu vas finir ta vie. Et c'est ça le plus important, c'est comment tu vas terminer ta vie. Donc il faut toujours rester dans la crainte et demander à Allah. Et le fait que tu restes dans cette crainte et que tu demandes toujours à Allah de te guider et que tu ressens toujours le besoin d'Allah et toujours que tu es et celui qui est petit devant Allah et qui a besoin de sa guidance, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide. Mais du moment que tu crois que ça y est, que tu es sauvé, que tu es sur le droit chemin, tu n'as plus besoin de guidance, c'est là que tu t'égares. Il dit donc que celui qui fait le mal, Allah va le punir et il va faire sa ruse contre lui, mais il ne fait pas de ruse contre les pieux, il fait la ruse contre les gens du mal. Donc parmi les gens qui se disent musulmans, il y en a qui font du mal et qui font partie des gens du mal même s'ils se disent musulmans. Donc c'est pas juste le fait de se dire musulman, ça veut dire t'es sauvé, Il faut comprendre ça. Et il dit wa makar wa makar Allah wallahu khayrul makirin. Il y a des gens aujourd'hui parmi les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la guerre à l'islam, mais par l'intérieur. Ils se disent musulmans, mais ils combattent l'islam de l'intérieur. C'est des munafiqis, c'est des hypocrites. Ils font plus de mal à l'islam et aux musulmans que les koufars des fois. Hein? Donc ça c'est des exemples. Le cheikh il dit, et ils ont comploté et Allah a comploté, et Allah est le meilleur des comploteurs. Verset 54 dans surat Al-Imran. Et ils ont comploté, Allah a comploté, et Allah est le meilleur des comploteurs. Le verset 30 dans surat Al-Anfal. Dans les deux versets, il y a la même signification, la même parole. Wal jaza'u min jins al-amal. Falamma makaru bi'ibadillah makaru bir-rasul sallallahu alayhi wa sallam yuridun qatlah aw sijnah أو طرده مكر الله لرسوله وأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الغار واختفى فيه ولما انقطع الطلب ذهب إلى المدينة ووجد الأنصار والمسلمون وقامت دولة الإسلام فالله مكر بالكفرة من حيث لا يشعرون. Donc le cheikh il dit que la rétribution pour un péché ou pour une bonne action, elle correspond toujours à l'action elle-même. Si tu fais le bien, ta rétribution c'est le bien. Si tu fais le mal, ta rétribution c'est le mal. Et Allah, il va te punir toujours de la même manière que le péché que tu as fait. Il va faire que la rétribution soit de la même catégorie. La punition va être la même catégorie que l'action. Tout le temps, c'est comme ça. Quelqu'un il fait un péché d'une manière, Allah le punit de la même manière. Donc, on voit ici, le cheikh il dit, quand les gens ils ont fait des ruses contre les adorateurs d'Allah, ils ont fait des ruses contre les messagers d'Allah, contre le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu le tuer, ils ont voulu l'emprisonner, ils ont voulu le chasser, Allah subhanahu wa ta'ala a fait son plan, a fait sa ruse, il a sauvé son messager. Et il l'a fait sortir de parmi eux, alors qu'ils ne s'en ont même pas aperçu, ils n'ont même pas su comment il a fait pour sortir. Et il était en route vers Médine, il s'est caché dans une grotte, ils ne l'ont pas trouvé. Et lorsqu'ils sont partis, il est parti vers Médine, il est arrivé là-bas, il a trouvé les Ansar et les musulmans, et il a établi l'état de l'islam, et c'est là que l'islam est devenu de plus en plus fort, et Allah donc a rusé contre les munafiquins, contre les kuffars plutôt, contre les kafaras, contre les kuffars, il a rusé contre eux d'une manière qu'ils ne s'en sont même pas aperçus. Et ça c'est pas juste à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore aujourd'hui c'est la même chose. Si des gens défendent la religion d'Allah, appellent à Allah, appellent au Coran, appellent à la sunna, et qu'il y a des gens parmi les koufars ou les munafiqines qui veulent leur faire du tort, leur faire du mal, leur faire des problèmes, Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'il y a un châtiment, une punition qui va tomber sur ces koufars et sur ces munafiqines, sans qu'eux-mêmes, ils ne vont même pas s'en apercevoir, et il va sauver ces serviteurs pieux qui font le bien et qui appellent à la vérité. Donc ça, c'est toujours comme ça, et c'est la sunna d'Allah. Il dit عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والنسائي. Donc le cheikh il mentionne cette explication ou ce hadith rapporté selon Ibn Mas'ud. Il dit que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait sur la terre. Et il a dit, voilà le chemin d'Allah. Il a fait une ligne droite. Il a dit, voici le chemin d'Allah. Puis,
à gauche et à droite de ce trait, il a fait des petits traits à gauche et à droite. Et il a dit, voici des petits traits divisés, séparés. À la tête de chacun d'entre eux, il y a un shaitan qui invite les gens à le suivre. Puis il a récité le verset, et voici mon chemin dans toute sa rectitude, mon droit chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le, et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin, ou qui vont vous égarer de son chemin. Voici en quoi Allah vous enjoint, hein, voici ce que Allah vous enjoint pour que vous puissiez atteindre la taqwa et la piété. C'est le verset 153 dans Surat Al-An'am. Le Cheikh Al-Fawzan il explique donc, il dit, يقول تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بمثال محموس بأن خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال عن المستقيم هذا سبيل الله وعن بقية الخطوط هذه سبيل أو سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وهذا يذكرنا بالدعاة الذين مر ذكرهم في حديث حذيفة دعاة على أبواب جهنم هم هؤلاء على كل سبيل شيطان منهم يدعو إليه ليخرج الناس من الصراط المستقيم إلى هذه السبل هؤلاء هم الدعاة أو هم دعاة الضلال وهم الذين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. Le Cheikh il termine donc, il explique ce hadith là pour terminer, il dit, et ne suivez pas les sentiers qui peuvent vous faire dévier de son chemin. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ça par un exemple palpable, un exemple réel, un exemple concret. Hein? Il leur a tracé une ligne droite sur le sol. Puis à gauche et à droite de ce chemin, il leur a fait des petites lignes qui sortent de ce chemin. Il a dit, voilà le chemin d'Allah, ça c'est le chemin droit. Puis après les petites lignes, il a dit, ça c'est des petits chemins séparés, divisés, et à la tête de chacun d'entre eux, il y a des diables qui invitent les gens à les suivre. Donc, ça nous rappelle le hadith de Hudhayfa qu'on a lu au dernier cours, dans lequel il y avait la mention qu'il y avait des gens qui allaient être des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Donc, ce hadith-là, il rejoint le hadith de Hudhayfa dans sa signification, et il vient nous expliquer qu'il y a des gens qui invitent les gens à l'enfer, comme il y a à la tête de chacun d'entre ces chemins un petit shaitan ou un shaitan qui dit aux gens, venez, suivez ou entrez sur notre chemin. Hein? Et donc, c'est pour expliquer que le chemin qui amène à Allah, c'est un seul et unique chemin, il n'y en a pas deux, il n'y en a que un. Et les chemins des Garmas sont nombreux et multiples. Et également, le Cheikh dit donc que dans le hadith de Hudhayfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des gens qui invitent aux portes de l'enfer, et ce sont ceux-là qui sont ces diables qui invitent donc à leur chemin, au chemin d'égarement. À la tête de chacun d'entre ces petits chemins, il y a un shaitan qui invite les gens à le suivre pour les faire sortir du droit chemin vers ces petits sentiers-là. Et ceux-là sont les gens qui invitent à l'égarement, qui sont de notre même origine, même race que nous, même couleur que nous, et qui parlent la même langue que nous. Donc on a fini l'explication de cette partie. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera au prochain cours. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.